Chapitre 3. Chandelle. Chandelle était un petit port de commerce actif de la péninsule de Moyle. Althea y était déjà passée en compagnie de son père. Sur le pont du Moissonneur, en train de contempler les quais animés, elle eut soudain l'impression que si elle sautait du bord et courait le long des appontements, elle allait sûrement découvrir la Vivacia amarrée et son père aux commandes, comme toujours. Et il serait installé dans le salon du capitaine, où il recevrait les marchands de la ville. On aurait sorti de l'eau-de-vie de qualité, du poisson fumé et du fromage affiné, et, négociant dans une ambiance conviviale, il proposerait son fret en échange d'argent ou d'autres produits. La pièce serait à la fois propre et accueillante, et la cabine d'Althea serait, comme autrefois, son refuge personnel. La poignante nostalgie qu'elle ressentit tout à coup fut comme une douleur physique dans sa poitrine. Elle se demanda où se trouvait son navire et comment il supportait le traitement de Kyle. Elle espérait que Yémin était devenu pour lui un bon compagnon, bien que sa jalousie lui assurât que nul ne connaîtrait jamais la Vivacia aussi intimement qu'elle. « Bientôt, » se jura-t-elle en s'adressant autant à elle-même qu'à la lointaine Vivnef. « Bientôt. »«
Garçon !»
L'interpellation claqua sèchement dans son dos, et Althea sursauta avant de reconnaître la voix de Brachen et la note taquine qu'elle seulait. Néanmoins, elle répondit
« Lieutenant ?»
en se retournant précipitamment.
« Le capitaine veut te voir. »«
Oui, lieutenant, »
fit-elle en s'apprêtant à obéir.
« Attends, un instant. »
Avec exaspération, elle le vit jeter des coups d'œil furtifs alentour pour s'assurer qu'il n'y avait personne près d'eux et que nul ne les observait. Ne se rendait-il pas compte que pour n'importe qui, son attitude constituait un signal évident d'une relation clandestine entre eux? Pire encore, il se rapprocha d'elle pour pouvoir parler plus bas. « Dîner à terre ce soir ?» Il tapota sa bourse afin de faire tinter les pièces qu'elle contenait. À côté, une étiquette du bateau nouvellement tamponné pendait à sa ceinture. Althea haussa les épaules.
« Si j'ai une permission, peut-être, »
répondit-elle en faisant semblant de ne pas avoir perçu l'invitation contenue dans la question. Brachen scruta son visage. « La brûlure de serpent a presque disparu. J'ai craint un moment que vous n'en gardiez une trace. » Elle haussa de nouveau les épaules, refusant la tendresse qu'elle lisait dans ses yeux.
« Quelle importance, une cicatrice de plus ou de moins pour un marin ? Ça m'étonnerait que quiconque à bord ait seulement remarqué ma blessure ou y fasse attention à l'avenir. »«
Vous avez donc décidé de rester sur ce navire ?
J'y travaillerai tant que nous serons à quai. Mais je pense avoir plus de chances de me faire engager ici sur un bateau qui rallie Terrilleville que dans les petits ports où le moissonneur fera relâche après celui-ci. »
Elle aurait dû abandonner là le sujet, elle le savait. Mais une soudaine curiosité lui fit s'enquérir.
« Et vous ?»«
Je ne sais pas encore. »
Un grand sourire détendit brusquement ses traits et il dit d'une voix de conspirateur « On m'a proposé la place de second lieutenant. La paye est deux fois supérieure à celle que je touchais en commençant et le titre fait mieux sur une étiquette que troisième lieutenant. Rien que pour ça, je vais peut-être rester. » J'ai donné mon accord, mais je n'ai pas encore signé le contrat. » Il ajouta en observant attentivement l'expression d'Althea. « D'un autre côté, si nous trouvions un bon navire qui retourne à Terrilleville, il ne serait pas désagréable de revoir le pays. » La jeune fille sentit son cœur se serrer. Non, ça ne pouvait pas durer. Par un effort de volonté, elle plaqua un sourire sur ses lèvres et eut un petit rire.
« Allons. » Quelles sont les chances que nous soyons de nouveau embauchés sur le même bateau? Bien mince, à mon avis. »
Il continua de la dévisager. « Tout dépend de l'énergie que nous y consacrons, » fit-il. Il reprit son souffle. « J'ai glissé un mot pour vous au capitaine du Moissonneur, en disant qu'à mon sens, vous abattiez davantage le travail d'un vrai matelot que celui d'un simple mousse. Et le second a été d'accord avec moi. C'est sans doute à ce propos que le capitaine désire vous voir. » Pour vous faire une meilleure offre si vous restez à bord.
« Merci, »
répondit-elle, mal à l'aise, non à cause d'un quelconque sentiment de reconnaissance, mais au contraire parce qu'elle éprouvait les premiers symptômes de la colère. Brashen croyait-il qu'elle avait besoin de sa recommandation pour être considérée comme un marin de deuxième classe? Elle valait bien le salaire qu'on versait à un homme d'équipage, d'autant plus qu'elle savait dépecer le gibier. Elle avait l'impression que Brashen l'avait dépouillée de sa dignité et de sa valeur. Elle aurait dû laisser l'affaire s'arrêter là, mais ne put s'empêcher d'ajouter « Je crois qu'il s'était déjà rendu compte de mes capacités. » Malheureusement, Brashen la connaissait trop bien, et il s'excusa hâtivement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chacun sait que vous ne volez pas votre paye. Vous avez toujours été un bon marin, Althea. Et votre service à bord du moissonneur n'a fait que vous améliorer. Si je devais manœuvrer le gréement en pleine tempête, c'est vous que je choisirais pour m'accompagner. On peut compter sur vous, dans la mâture ou sur le pont. »
« Merci, » répéta-t-elle encore plus mal à l'aise parce qu'elle était sincère.
Brashen ne distribuait pas les compliments à la légère. « Je ferai bien de me présenter au capitaine si je veux qu'il garde bonne opinion de moi, » ajouta-t-elle afin de prendre rapidement le large. Elle commença de s'éloigner de lui, mais il lui lança « J'ai une permission, je me rends au Chêneau Rouge. La cuisine y est bonne, la bière encore meilleure et pas chère. On se retrouve à terre !»
Elle pressa le pas en souhaitant pouvoir effacer le regard étonné de Rayler en faisant semblant de ne pas le voir. Quel idiot! Elle avait espéré rester sur le navire pour prêter la main au déchargement et au réapprovisionnement en attendant d'avoir trouvé une place sur un autre bâtiment. Mais si Brashen rendait sa position trop embarrassante, elle devrait débarquer et louer une chambre.
C'est donc les lèvres pincées qu'elle frappa à la porte du capitaine Sichel et qu'elle s'efforça de se composer une expression plus présentable en l'entendant répondre
« Entrez !»
Elle n'avait entreaperçu le carré des officiers qu'une ou deux fois au cours de son voyage. En y pénétrant, elle le trouva encore moins impressionnant que dans son souvenir. Certes, elle était sur un navire où l'on trimait dur, et l'huile et la viande faisaient une cargaison salissante, mais jamais son père n'aurait toléré pareille pagaille. Le capitaine Sichel était assis à la table, son second debout à ses côtés, un coffre renforcé posé devant lui, ainsi qu'un livre de paye, une pile d'étiquettes en cuir et le tampon du navire. Althea savait qu'un certain nombre d'hommes avaient reçu leur salaire plus tôt dans la journée, et quant à ceux qui avaient embarqué pour dette ou comme prisonniers, ils s'en étaient allés de nouveau libres, mais sans un sou en rétribution de la longue année passée sur le bateau. On ne leur avait remis que l'étiquette tamponnée, prouvant qu'ils avaient fait leur temps ou l'acquis attestant qu'ils étaient quittes de leurs dettes. Althea se surprit à se demander vers quel genre de foyer ces hommes retournaient, et si ces foyers existaient encore. Puis elle sentit le regard du capitaine posé sur elle et revint à la réalité.
« À vos ordres, capitaine » annonça-t-elle en hâte.
L'homme examina le grand livre ouvert devant lui.
« Attel, mousse !» Une note m'apprend que tu as gagné une prime pour t'être en plus occupé du dépeçage. Exact, garçon ?
Oui, capitaine.
Il le savait et elle le savait. Elle attendit qu'il poursuive. Il feuilleta un autre livre sur la table et fit courir son doigt le long d'une page.
Une autre note du journal de bord dit que, grâce à ton action rapide, tu as empêché le troisième lieutenant de se faire enrôler de force sur un autre navire. Ainsi que toi-même, sans parler de plusieurs hommes d'autres bâtiments.
Il passa plusieurs feuilles et s'arrêta sur une autre entrée.
Le second a aussi marqué que, le jour où nous avons croché le serpent, ta vivacité a permis à un homme de ne pas passer par-dessus bord. Exact, garçon.
Althea, ravie, fit un grand effort pour se retenir de sourire fièrement, mais ne put rien faire contre la rougeur qui envahit ses joues.
Oui, capitaine.
Répondit-elle, et elle ajouta « Je ne pensais pas qu'on avait remarqué tout ça. » La chaise du capitaine craqua quand il s'y adossa.
« Nous faisons plus attention à la plupart des détails que ne le croient les hommes. Avec un équipage aussi considérable, dont la moitié constituée de gibier de prison, je m'en remets à mes officiers pour ouvrir l'œil et me signaler qui vaut ou ne vaut pas le pain qu'ils mangent. »
Il pencha la tête.
« Tu as embarqué à Terrilville comme mousse. Nous aimerions te garder avec nous, Athel. »«
Merci, capitaine. »
Et pas question de promotion ni d'augmentation de la paye?
Autant pour la recommandation de Brachen.
Ça te convient alors?
Elle prit son souffle. Son père avait toujours préféré que ses hommes se montrent francs avec lui.
Elle allait essayer avec Sichel.
Je ne sais pas, capitaine. Le moissonneur est un bon bateau et je n'ai pas à m'en plaindre, mais je crois que j'aimerais retourner à Terrilleville et y arriver plus vite que le moissonneur ne peut m'y ramener.
L'idéal, capitaine, serait que je prenne ma paye et mon étiquette tout de suite, mais que je puisse rester et travailler à bord tant qu'il est au port. Et si je ne trouve pas d'autre place avant votre départ, y conserver mon poste.
Manifestement, la franchise ne payait pas.
Le regard du capitaine s'était assombri. À l'évidence, il pensait avoir fait à Altea une belle proposition, et il n'appréciait pas qu'elle songe à en chercher une meilleure.
« Ma foi, tu as droit à ta paye et à ton étiquette, naturellement, mais pour ce qui est de ton attitude, disons,
nous accordons une grande importance à la fidélité de nos hommes au navire. Or, tu crois trouver mieux ailleurs. »
« Pas mieux, non, capitaine. Le moissonneur est un bon bateau, capitaine, très bon. J'espérais seulement me faire embaucher sur un autre qui me ramène chez moi plus rapidement. »
« C'est sur son navire qu'un marin est chez lui, »
fit le capitaine Sichel d'un ton sentencieux.
« Je parlais de mon port de départ, capitaine, »
se reprit Altea, découragé.
Visiblement, elle ne s'y prenait pas comme il fallait.
« Très bien, faisons nos comptes et payons ce qui était dû. » Je vais aussi te remettre ton étiquette car je n'ai rien à redire sur ton travail. Mais il n'est pas question que tu restes à traîner sur mes ponts en espérant obtenir un meilleur poste. Le moissonneur doit reprendre la mer dans le courant du mois. Si tu reviens avant que nous ayons levé l'ancre et que tu veuilles reprendre ton poste, eh bien nous verrons. Il n'est pas difficile à pourvoir, tu sais.
Oui, capitaine.
Elle se mordit la lèvre pour s'empêcher d'en dire davantage. L'homme additionna sa paye à sa prime et sortit l'argent correspondant, et Altea rendit intérieurement hommage à son honnêteté. Malgré sa brusquerie et son inflexibilité, il ne lui en versait pas moins la somme correcte, exacte jusqu'à la dernière piécette de cuivre. Il la poussa vers elle, et pendant qu'elle l'empochait, il prit une étiquette, et à l'aide d'un poinçon et d'un maillet, la marqua de l'emblème du moissonneur, sur lequel il passa de l'encre afin de le faire ressortir. Enfin, il prit l'instrument spécial qui servait à écrire sur le cuivre.
« Nom complet ?» demanda-t-il.
« Étrange comme on peut se faire attraper par la réalité là où on s'y attend le moins. Ça, c'est pourquoi Altea n'avait jamais prévu ce moment. » Elle rassembla son courage. Il fallait que ce fût son vrai nom, sans quoi l'étiquette n'aurait aucune valeur. « Altea Vestrit, »
dit-elle à mi-voix.
« C'est un prénom de fille, ça !»
fit l'homme en se mettant à graver les lettres dans le cuir.
« Oui, capitaine. »«
Qu'est-ce qui a pris tes parents de te coller un prénom de fille ?»
sentit-il distraitement tout en s'attaquant au Vestrit.
« Il leur plaisait, je suppose, capitaine, »
répondit-elle sans quitter des yeux les mains qui incisaient soigneusement le cuir.
Une étiquette de cuir, la seule preuve qu'il lui fallait pour obliger Kyle à tenir parole et à lui rendre la vive nef. Les mouvements de la main ralentirent, puis cessèrent.
Le capitaine leva le visage et la regarda dans les yeux. Les plis de son front se creusèrent.
« Vestrit, c'est un nom de marchand, non ?»
Altea se sentit soudain la gorge sèche.
« Oui, mais... »
Il l'interrompit d'un geste et se tourna vers le second.
« Comment s'appelait le navire de Vestrit, la Vive Nef ?»
Le second haussa les épaules et le capitaine Sichel reporta vivement son attention sur Altea.
« Comment s'appelait-il ?»«
La Vivacia, »
répondit Altea à voix basse, mais non sans une fierté bien involontaire.
« Et la fille du capitaine travaillait sur les ponts aux côtés de l'équipage, »
reprit Sichel en s'exprimant lentement. Il scruta le visage d'Altea.
« Et cette fille, c'est toi, n'est-ce pas ? »
Il parlait à présent d'un ton dur et accusateur. Elle se redressa et se tint très droite.
« Oui, capitaine. »
D'un air révolté, il jeta son graveur sur la table.
« Fais-la-moi descendre de ce navire !»
ordonna-t-il sèchement à son second.
« Je m'en vais, capitaine. Mais il me faut cette étiquette !»
dit Althea alors que le second s'avançait vers elle. Elle ne bougea pas d'un pouce. Pas question qu'elle s'humilie en s'enfuyant devant lui.
Le capitaine émit un grognement hargneux. « Si tu t'imagines que je vais te donner une étiquette avec le poinçon de mon bateau dessus, tu te fais des illusions. Tu crois que j'ai envie de devenir la risée de tous les navires abattoirs? Qu'on sache que j'ai embarqué une femme pendant toute une saison sans même en rendre compte? Tout le monde se ficherait de moi. Je devrais t'obliger à me rendre l'argent que je t'ai donné. Pas étonnant que nous ayons eu tant d'ennuis avec les serpents, bien plus que d'habitude. Chacun sait qu'une femme à bord les attire. Nous avons eu une sacrée chance d'arriver ici vivants, et ce n'est pas grâce à toi. Flanque-la dehors »
hurla-t-il à son second, dont l'expression montrait clairement qu'il partageait l'opinion de son capitaine.
« Mon étiquette !»
fit Althea éperdue. Elle se précipita pour la saisir, mais le capitaine s'en empara le premier. Elle aurait dû se battre avec lui pour la lui prendre.
« Je vous en supplie !»
s'exclama-t-elle d'une voix implorante alors que le second lui agrippait le bras.
« Sors de cette pièce et fiche le camp de mon navire !»
gronda le commandant.
« Estime-toi heureuse que je te laisse le temps de récupérer tes affaires. Mais si tu ne débarrasses pas le plancher sur le champ, je te fais jeter sur le quai avec ce que tu as sur le dos et rien d'autre. Sale putain ! Avec combien d'hommes de l'équipage as-tu couché pour garder ton petit secret ?»
demanda-t-il, cependant que le second la poussait sans ménagement vers la porte.
« Pas un seul »
aurait-elle voulu répliquer, furieuse.
« Pas un seul !»
Mais elle avait passé une nuit avec Brashen, et même si cela ne regardait qu'elle, cela suffisait à faire un mensonge de sa dénégation. Elle ne put que répondre d'une voix étranglée.
« Ce n'est pas juste !»« Toujours plus que tes mentries !»
rugit le capitaine Sichel. Le second la propulsa hors du carré des officiers.
« Va chercher tes affaires !»
fit-il à mi-voix mais d'un ton féroce.
« Et si j'entends le moindre mot de cette histoire à chandelle, je remuerai ciel et terre pour te retrouver, et je te montrerai comment on s'occupe des menteuses et des putains, nous autres »
Là-dessus, il lui donna une violente poussée, et Althea traversa le pont en trébuchant. Elle reprit son équilibre au moment où l'homme claquait la porte derrière elle. Prise d'une sorte d'étourdissement sous le coup de la colère et du désespoir, elle regarda le panneau de bois qui s'était refermé sur son étiquette. Elle avait l'impression de vivre un cauchemar. Tous ces mois de labeur, et pourquoi? Pour une poignée de pièces, misérable paye d'un simple mousse? Elle l'aurait donné avec joie ainsi que tout ce qu'elle possédait, en échange du morceau de cuir que le capitaine était sans doute en train de détruire en ce moment même. Comme elle se détournait lentement, elle vit Reller qui la dévisageait. Il leva les sourcils d'un air interrogateur.
« On m'a viré du navire, »
dit-elle sans s'étendre sur le sujet. C'était la vérité, et l'explication la plus simple.
« À cause de quoi ?»
demanda le marin en lui emboîtant le pas alors qu'elle se dirigeait vers le gaillard d'avant pour empaqueter ses maigres effets. Elle haussa les épaules puis secoua la tête.
« Je n'ai pas envie de discuter, »
répondit-elle d'un ton revêche, en espérant avoir pris le ton d'un adolescent en colère et non celui d'une femme sur le point d'éclater en sanglots incontrôlables.
« Maîtrise-toi, maîtrise-toi, maîtrise-toi »
se répéta-t-elle à mi-voix en descendant une dernière fois dans la cale exiguë à l'atmosphère croupie qui avait été son foyer durant tout l'hiver. Il ne lui fallut que quelques instants pour assembler ses objets personnels et les fourrer dans son sac de marin. Elle le jeta sur son épaule et quitta le navire. Elle posa le pied sur le quai et regarda ce qui l'entourait d'un œil neuf. Chandelle. Si elle avait eu le choix, ce n'est certainement pas là qu'elle aurait voulu être débarquée sans rien d'autre qu'une poignée de pièces et un sac de vêtements.
Un homme posa sur Brashen un regard empreint de curiosité. L'officier lui jeta un coup d'œil, puis se détourna. Il venait de prendre conscience qu'il marchait à grandes enjambées dans la rue, un sourire idiot sur le visage. Il haussa les épaules. Il avait de bonnes raisons de sourire. Il était fier d'Althea. Elle ressemblait vraiment à une petite gouape de mousse sur le pont du moissonneur. Sa façon désinvolte d'accepter son invitation, son bonnet crânement incliné sur sa tête, tout était parfait. En y repensant, ce voyage dont il croyait qu'il allait la tuer lui avait au contraire fait le plus grand bien. Elle avait retrouvé un trait de caractère dont il craignait que Kyle ne l'eût dépouillé en prenant le commandement de la Vivacia et dont l'absence l'avait rendu insupportable au cours des deux derniers périples sur la Vivnef. Son effronterie s'était muée en agressivité, son sens de la lutte à la loyale en esprit rancunier. Le jour de la mort de son père, il avait cru éteinte cette étincelle de l'ancienne Althea, et cela jusqu'au jour où elle avait été affectée au dépeçage des ours de mer dans les mortes terres. Un déclic s'était alors produit en elle, et ce changement n'avait ensuite fait que s'affirmer, tout comme elle-même avait gagné en force et en endurance. La nuit où elle était venue le chercher à Recoin, il s'était soudain aperçu qu'elle était redevenue l'Althea qu'il avait connue naguère. Il avait également pris conscience qu'elle lui avait manqué terriblement. Il inspira une grande bouffée d'air de la terre et de liberté. Il avait sa paye en poche, il était libre comme un oiseau, et une soirée en excellente compagnie l'attendait. Que demander de mieux? Il se mit à chercher des yeux l'enseigne des Chênes Rouges. Le second lui avait recommandé l'auberge avec un sourire complice. C'était l'établissement idéal pour un marin lesté d'argent, avait-il déclaré, quand Brashen avait mentionné qu'il risquait de passer la nuit à terre. Son expression indiquait clairement qu'il ne s'attendait pas à ce que Brashen passe la nuit seul. Brashen non plus, d'ailleurs. Il aperçut les Chênes Rouges de l'auberge bien avant de repérer sa modeste enseigne. L'intérieur lui parut propre et presque austère. Il n'y avait que deux tables et quatre bancs, tous poncés au net comme le pont d'un bon navire. Le sol était recouvert de sable blanc étendu au râteau, du bois flotté brûlait dans l'âtre en produisant des flammes multicolores. La salle était vide, et Brashen attendit un moment avant qu'un homme affligé d'une claudication apparût en s'essuyant les mains sur son tablier. Il toisa Brashen d'un air presque soupçonneux, puis dit enfin « Bonjour. On m'a recommandé votre maison. Combien pour une chambre et un bain ?» Il eut de nouveau droit au même regard scrutateur, comme si l'aubergiste cherchait à jauger les moyens dont il disposait. L'homme, d'âge moyen, portait les marques d'une vie de marin et boitait à cause d'une jambe vilainement contournée, résultat d'un accident qui avait sans doute mis fin à son existence maritime. « Trois !» répondit-il d'un ton sans réplique. Puis il ajouta « Vous n'êtes pas du genre à rentrer sous et à tout casser, n'est-ce pas? Parce que, dans ce cas, vous n'avez rien à faire aux Chênes Rouges. Je vais rentrer sous, en effet, mais je ne fais pas de dégâts, je dors. Enfin, vous êtes franc, c'est un bon point pour vous. »
Il tendit la main et il empocha l'argent que Brashen y déposa.
« Prenez la chambre à gauche en arrivant sur le palier. Si vous voulez un bain, il y a une pompe, un baquet et une cheminée dans la remise, derrière. Le feu est couvert, mais vous n'aurez pas de mal à le faire repartir. Faites votre toilette et restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Mais n'oubliez pas, laissez tout aussi propre que vous l'avez trouvé. Mon établissement est une maison bien tenue. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui veulent boire, manger, crier et se battre jusqu'à pas d'heure. Si c'est ce que vous cherchez, il faudra vous loger ailleurs. Chez moi, quand un honnête homme paye pour un lit propre, il l'a. Pour un repas bien préparé, il l'a. Ce n'est pas de la haute cuisine, mais les aliments sont sains, cuits du jour, et ils sont accompagnés d'une chope de bonne bière. Ce n'est pas une taverne ici, ni un lupanar, ni un tripot, non, mon gars. C'est une maison bien tenue. Bien tenue.
Brashen se surprit à hocher raidement la tête à l'interminable discours, et il commença de se demander si le second ne l'avait pas envoyé là pour se moquer de lui. Néanmoins, il s'y trouvait à présent, et l'établissement, propre et calme, offrait certainement un meilleur cadre pour inviter Althea qu'une taverne bruyante et bondée.
« Eh bien, je vais prendre un bain, » déclara-t-il quand le propriétaire s'interrompit pour reprendre son souffle.
« Ah, un de mes camarades de bord viendra peut-être me rejoindre chez vous. Il demandera Brashen, c'est moi. Lui, il s'appelle Attel. Voudriez-vous le prier de m'attendre ?»«
D'accord, je lui dirai que vous êtes là. »
L'aubergiste se tut un instant.
« Ce n'est pas un fêtard, au moins. Le genre à rentrer sous comme une bourrique, à vomir sur mon sol propre et à renverser mes bancs, hein ?»«
A-t-elle ? Non, pas lui, vraiment pas. » Et Brashen battit précipitamment en retraite vers la porte du fond. Dans une remise dressée dans une cour pavée, il trouva une pompe à eau, un baquet et un âtre, comme l'avait promis le propriétaire. À l'instar du corps de logement, le petit bâtiment était immaculé, presque à l'excès. Les serviettes rugueuses accrochées à des patères paraissaient propres, bien cuisées, et on ne voyait dans le baquet nul anneau de crasse. C'est l'avantage, se dit Brashen, de loger dans une maison bien tenue. Il tira plusieurs seaux d'eau qu'il mit à chauffer. Ses vêtements de terre étaient au fond de son sac, propres, bien qu'il sentisse un peu le moisi. Il étendit sa chemise à rayures, des chaussettes et un épais pantalon de laine près du feu pour les aérer. Un pot de savon mou était à la disposition des clients, et il s'en servit généreusement, s'enlevant plusieurs couches de crasse, de sel et peut-être même de peau morte avant d'en avoir terminé. Pour la première fois depuis des semaines, il défit sa queue de cheval, lava ses cheveux à fond et les renoua. Il aurait aimé rester dans l'eau à se détendre, mais il ne voulait pas faire attendre Althea. Aussi quitta-t-il le baquet pour se sécher, après quoi il tailla sa barbe et enfila sa tenue de terre. Quel plaisir de se sentir des vêtements propres, chauds et secs sur une peau propre, chaude et sèche. Son bain l'avait laissé presque léthargique, mais un bon repas et une chope glacée y mettraient bon ordre. Il fourra ses habits sales dans son sac et nettoya rapidement la pièce. Il chercherait le lendemain une blanchisserie ou faire laver tous ses effets, sauf ceux qui étaient trop souillés de goudron pour être récupérables. Avec le sentiment d'être un homme neuf, il regagna le bâtiment principal pour y prendre un repas et attendre Althea. Jamais elle ne s'était trouvée seule dans un port étranger. Elle avait toujours eu des compagnons de bord avec elle et un navire qui l'attendait quand la nuit tombait. L'après-midi n'était pas encore achevé, mais l'air paraissait soudain s'être refroidi et la lumière avait pris une teinte grise. Althea parcourut de nouveau les alentours du regard. Le monde lui semblait tout à coup amorphe et sans limite précise. Plus de bateaux, plus de devoirs, plus de liens familiaux, rien qu'un peu d'argent dans la poche et un sac sur le dos. Un étrange mélange d'émotions l'envahit brusquement. Elle se vit à la fois abandonnée et superbement seule, anéantie par le refus du capitaine de lui remettre une étiquette, et curieusement forte et indépendante, prête à l'aventure. Oui, c'était cela. Elle avait l'impression que rien de ce qu'elle pourrait faire n'aggraverait sa situation ni n'engagerait sa responsabilité, car nul ne s'en soucierait. Elle pouvait s'enivrer abominablement ou dépenser jusqu'à son dernier sou en une seule nuit dans une taverne exotique, à goûter des mets, des vins et des musiques inconnues. Naturellement, il fallait penser au lendemain, mais c'était là un souci permanent. Et si elle décidait de se laisser aller à un coup de tête, nul n'était là pour le lui interdire ni la sermonner le jour suivant. Et puis, essayer de planifier l'avenir ne lui avait guère rapporté jusqu'ici. Elle remonta une dernière fois son sac d'un coup d'épaule, renfonça crânement son bonnet sur sa tête et s'engagea d'un pas décidé dans une rue en observant chaque détail des commerces. Si près du front de mer, on trouvait surtout des officines de courtiers maritimes, des boutiques de fournitures pour navires et des pensions bon marché pour les marins, entre lesquelles s'intercalaient des tavernes, des bordels, des tripots et des débits de drogue. C'était un quartier brutal, fait pour des gens brutaux. Et elle en faisait désormais partie. Elle choisit une taverne au hasard et entra. L'établissement ne paraissait pas différent de ceux de Terrilleville. Le sol était jonché de roseaux à la fraîcheur lointaine, les tables à tréteaux portaient les traces en anneaux d'innombrables chopes, les bancs avaient subi de nombreuses réparations,
le plafond et les murs étaient noircis par la fumée huileuse de la cuisine et des lampes. À une extrémité de la salle, trônait une grande cheminée autour de laquelle les marins s'agglutinaient afin de profiter de la chaleur et de l'odeur de ragoût qui en émanait. Il y avait aussi le patron de la maison, gaillard et flanqué à la mine lugubre, et une troupe de servantes, certaines renfrognées, d'autres gloussantes. Au fond, un escalier menait aux chambres de l'étage. Le brouhaha des conversations frappa Althea comme une bourrasque. Elle trouva place à une table presque inoccupée. Elle n'était pas aussi proche du feu qu'elle l'eût souhaité, mais il y faisait beaucoup plus chaud que dans la rue ou sous le gaillard d'avant du navire. S'installant dos au mur, elle se fit servir une chope de bière qu'elle jugea très bonne, à son grand étonnement, et un bol de ragoût mal assaisonné, mais bien supérieur à l'ordinaire du moissonneur, aidé grandement en cela par le morceau de pain qui l'accompagnait. Manifestement sorti du four depuis quelques heures à peine, il avait une mie dense et sombre, très agréable à mâcher. Althea mangea lentement, savourant la chaleur de la salle, le ragoût et la bière, et refusant de penser à autre chose. Elle envisagea de prendre une chambre, mais les bruits, chocs, cris aigus et rires qui provenaient de l'étage lui firent comprendre que dans cet établissement, les lits ne servaient pas à dormir. Une des servantes s'approcha d'elle sans enthousiasme, mais Althea fit semblant de ne pas comprendre ce qu'elle voulait et la fille parut ravie de passer son chemin. Elle se demanda combien de temps il fallait rester prostituée avant de s'en lasser ou de s'y habituer. Puis elle s'aperçut qu'elle avait involontairement porté la main à son ventre pour toucher l'anneau à travers sa chemise. Le capitaine l'avait traitée de putain en l'accusant d'avoir attiré les serpents sur son navire. C'était ridicule, mais c'était ainsi qu'il la voyait. Elle prit une bouchée de pain et parcourut la salle des yeux, en tentant de s'imaginer ce qu'elle ressentirait à s'offrir aux hommes présents contre de l'argent. Il n'avait rien d'attirant. La mer endurcissait peut-être le marin, mais surtout elle l'enlaidissait. Dents manquantes, membres amputés, mains et visages noircis autant par le goudron et l'huile que par le vent et le soleil. Rares étaient les clients qui auraient pu lui faire envie, et ceux qui étaient encore jeunes, avenants et bien musclés étaient crasseux et dépourvus de manières. Peut-être, songea-t-elle, cela tenait-il à leur travail. Ils passaient leur journée à chasser, à tuer, à clarifier la graisse dans le sang et dans l'huile. Les matelots des navires marchands étaient plus propres, ou du moins ceux de la Vivacia. Son père exigeait une certaine hygiène chez ses hommes afin d'empêcher la propagation de la vermine à bord. Il lui était moins pénible qu'autrefois de penser à la vive nef et à son père. Le chagrin avait laissé place au désespoir. Elle rassembla son courage et affronta l'idée à laquelle elle avait jusque-là refusé de réfléchir. Il allait lui être pratiquement impossible d'obtenir une étiquette à son nom, et ce uniquement parce qu'elle était une femme. Le sentiment de défaite qui s'abattit alors sur elle lui donna presque la nausée, et le repas qu'elle avait mangé s'appesantit douloureusement dans son estomac. Elle s'aperçut qu'elle tremblait comme si elle avait froid. Elle posa les mains bien à plat sur le sol et agrippa le bord de la table des deux mains pour les calmer. « Je veux rentrer chez moi, » songea-t-elle accablée, « là où je suis en sécurité, au chaud et où des gens me connaissent. » Mais rien de tout cela n'existait plus que dans le passé, à l'époque où son père était vivant et qu'elle était chez elle sur la Vivacia. Elle voulut évoquer ce temps, mais ses souvenirs renaclaient à venir. Ils étaient trop lointains, elle-même s'en était trop coupée, et elle ne faisait qu'accroître sa solitude et son désespoir en s'efforçant de les ressusciter. « Brachen, » se dit-elle tout à coup. Dans cette ville crasseuse, il était le seul lien qu'elle eut avec des jours plus heureux. Elle n'avait pas l'intention de chercher sa compagnie, mais elle en avait pris soudain conscience. Elle en avait la possibilité. Elle pouvait se mettre en quête de lui si elle en avait envie, si elle désirait vraiment aller à l'aventure sans se préoccuper du lendemain. Elle pouvait le retrouver et passer quelques heures avec lui, bien au chaud, en sécurité. Cette idée lui faisait la même impression qu'à un affamé l'odeur d'une table bien garnie. Mais elle n'en ferait rien. Non,
Chercher Brashen serait une erreur. Si elle allait à sa rencontre, il croirait qu'elle voulait coucher à nouveau avec lui.
Elle réfléchit néanmoins à cette éventualité et sentit un vague intérêt s'éveiller en elle.
Elle émit un grognement mécontent et fit un effort pour songer sérieusement à la question. Les bruits qui provenaient de l'étage lui parurent brusquement ridicules et dégradants.
Non, elle n'avait pas vraiment envie de faire ça avec quiconque et surtout pas avec Brashen.
Tôt ou tard, lui, elle ou tous les deux regagneraient Terrilleville. Elle avait eu tort de coucher avec lui sur le moissonneur, mais ils étaient fatigués, à moitié sous et sous l'influence de la syndine, et cela seul expliquait leur comportement.
Mais si elle allait le retrouver ce soir, et que cela se reproduise, il risquait d'y attacher une importance qui n'existerait que dans son imagination. Et s'ils se rencontraient ensuite à Terrilleville...
Eh bien, ce qui se passait à bord d'un navire et ce qui se passait à terre étaient deux choses différentes, et Terrilleville, c'était chez elle. Par conséquent, elle n'irait pas rejoindre Brashen et elle ne coucherait pas avec lui. Voilà qui était réglé.
Restait à savoir ce qu'elle allait faire de sa soirée et de sa nuit.
Elle leva sa chope pour attirer l'attention d'une servante. Puis, alors que la fille lui versait une nouvelle rasade de bière, elle se plaqua un sourire sur les lèvres.
« Je suis plus fatiguée que je ne croyais, » dit-elle d'un ton ingénu. « Vous pouvez me recommander une pension ou une auberge calme, où je puisse aussi prendre un bain ?»«
Il y a des chambres ici, mais ce n'est pas calme. Par contre, vous trouverez une maison de bain plus loin dans la rue. »
répondit la fille en se grattant vigoureusement la nuque. La voyant faire, Althea songea que même si les chambres de la taverne étaient aussi tranquilles que des tombes, jamais elle ne dormirait dans leur lit. Elle espérait se débarrasser de la vermine qu'elle avait attrapée sur le navire, pas en attirer davantage.
« Un établissement calme, vous en connaissez un ? » demanda-t-elle.
La fille haussa les épaules.
« Le Cheval Doré, si ça ne vous dérange pas de payer le prix fort. Ils ont des musiciens et une chanteuse, et de petites cheminées dans les meilleures chambres, il paraît. Et certaines ont des fenêtres aussi. »
« Ah oui !» Le Cheval Doré. Elle y avait dîné avec son père. Rôti de porc et petit pois.
Elle lui avait fait cadeau d'un amusant petit Saint-Jean cire qu'elle avait acheté dans une boutique et il lui avait parlé des 20 tonneaux d'huile raffinée qu'il comptait acheter.
C'était une autre vie, celle d'Althea, et non celle d'Athel.
Non, ça m'a l'air trop cher. Vous n'avez pas autre chose de calme mais bon marché ?
La fille de salle fronça les sourcils.
« Je ne vois pas. Dans ce quartier, il n'y a pas beaucoup d'auberges tranquilles. En général, ce n'est pas ce que cherchent les marins, vous savez. »
Elle dévisagea Althea comme si elle la trouvait bizarre.
« Si, il reste les chéneaux rouges. Je ne sais pas si on peut y prendre un bain, mais c'est calme. Un vrai cimetière, à ce qu'on m'a dit. »
« J'en ai entendu parler, » coupa Althea.
« Et ailleurs ?»
C'est tout, je vous l'ai dit, c'est pas pour le calme que les marins viennent en ville.
Elle jeta un coup d'œil curieux à la jeune fille.
Il vous faut combien d'adresses avant de vous décider ?
Fit-elle avant de prendre le prix de la bière et de s'en aller d'un air désœuvré.
Bonne question, reconnut Althea.
Sans se presser, elle but une lampée de sa chope. Un homme qui empestait le vomi s'assit lourdement à côté d'elle. Le soir tombait et la taverne commençait à se remplir.
Le nouveau venu émit un rot puissant dont l'odeur fit grimacer la jeune fille.
Il eut un sourire jovial devant son expression et se pencha vers elle comme pour lui glisser un secret à l'oreille.
« Tu la vois, celle-là »
demanda-t-il en désignant une femme au teint jaunâtre qui nettoyait une table.
« Je me la suis envoyée trois fois. Trois fois. Et elle m'a fait payer que le prix d'une. »
Il se radossa au mur et sourit amicalement à sa voisine.
Deux de ses incisives brisées étaient plantées de guingois.
« Tu devrais l'essayer, petit. Je parie qu'elle t'apprendrait deux ou trois trucs. »
Et il lui fit un clin d'œil appuyé.
« Vous gagneriez sûrement votre pari, »
répondit Althea d'un ton affable.
Elle termina sa bière, se leva et reprit son sac.
Dehors, la pluie avait commencé à tomber, accompagnée de rafales qui promettaient des ondées plus abondantes. La jeune fille décida d'aller au plus simple.
Elle se trouverait une chambre qui lui conviendrait, paierait la somme demandée et s'offrirait une bonne nuit de sommeil. Il serait bien assez tôt le lendemain pour songer à prendre des résolutions plus importantes, comme chercher un travail à bord d'un navire qui rallierait Terrilville le plus rapidement possible. Terrilville. Là, elle serait chez elle. Là aussi prendrait fin son rêve de récupérer la vie Vasya. Elle chassa cette pensée de son esprit. À la nuit tombée, elle avait essayé 6 établissements qui louaient des chambres. La quasi-totalité se trouvait à l'étage de tavernes et d'autres débits de boissons. Tout était bruyant et enfumé, et certaines étaient situées dans des locaux qui abritaient aussi des prostituées à la disposition des pensionnaires. La maison qu'Althea choisit n'était pas différente des autres, en dehors du fait qu'une rixe venait d'y avoir lieu et que la garde municipale en avait temporairement chassé les clients les plus excités. Ceux qui restaient étaient épuisés ou abrutis par la boisson. Dans un coin, 3 musiciens jouaient pour eux-mêmes, à présent que les clients payants étaient partis. Ils bavardaient et riaient à mi-voix entre eux et interrompaient parfois un morceau pour le reprendre d'une autre manière. Althea s'installa assez près d'eux pour entendre leur conversation, mais pas trop afin de ne pas donner l'impression qu'elle les épiait. Elle les enviait. Comme eux, aurait-elle un jour des amis? Elle avait été heureuse durant les années où elle avait voyagé sur la Vivacia, mais il y avait eu un prix à payer. Son père avait été son seul ami. Il était impossible au capitaine et à la fille du propriétaire de partager complètement la profonde camaraderie du gaillard d'avant. Et la situation était presque identique à la maison, car elle avait perdu de vue depuis longtemps les petites filles avec lesquelles elle jouait enfant. Elle devait être mariée à présent, sans doute au même petit garçon qu'elles observaient discrètement autrefois en riant sous cap. Quant à elle, elle se retrouvait en frusque de marin dans un port étranger, attablée dans une taverne de bas étage, seule au monde, sans autre perspective d'avenir que rentrer chez elle la queue entre les jambes. Et de plus en plus pleurnicharde. Il était temps de se mettre au lit. Une fois achevée sa chope, elle montrait à la chambre qu'elle avait retenue pour la nuit. Brachen passa la porte d'entrée. Son regard balaya la salle et s'arrêta aussitôt sur Althea. Le temps parut s'arrêter alors qu'il s'immobilisait, les yeux fixés sur elle. À sa façon de se tenir, elle sut qu'il était en colère. Il avait aussi participé à une bagarre. La rougeur sous son œil gauche aurait viré au noir avant le matin. Althea aurait cependant été étonnée que ce fût la cause de sa mauvaise humeur, visible dans la tension de ses larges épaules sous sa chemise rayée et dans le brasillement de ses yeux sombres. Elle n'avait aucune raison d'éprouver des remords ni de la honte. Elle n'avait pas promis de venir à son rendez-vous. Elle avait seulement déclaré qu'elle irait peut-être. Alors, pourquoi ce mouvement de recul ? Brachen traversa la taverne à grands pas et chercha des yeux une chaise intacte. Il n'en trouva pas et dut s'asseoir à l'extrémité du banc d'Althea. Il se pencha vers elle et dit d'un ton sec « Vous auriez pu simplement dire non. Vous n'étiez pas obligé de me laisser attendre en me rongeant d'inquiétude. » Elle se mit à tambouriner sur la table du bout de ses doigts qu'elle observa l'espace de quelques secondes, puis elle tourna le visage vers Brachen. « Excusez-moi, lieutenant, » répondit-elle pour le rappeler au sens des réalités. « Je ne pensais pas que vous vous inquiéteriez pour un simple mousse. » Le regard de Brachen se porta rapidement sur les musiciens qui ne leur prêtaient aucune attention. « Je comprends, » fit-il d'une voix atone, mais ses yeux en disaient long. Elle l'avait blessé. Ce n'était pas son intention, et elle n'avait même pas envisagé cet aspect de la situation. Il se leva et s'éloigna. Elle s'attendait à le voir sortir, mais il aborda le propriétaire occupé à balayer de la vaisselle brisée, puis revint avec une chope pleine, se rassit et reprit sans laisser à la jeune fille l'occasion de placer un mot. « J'ai fini par me faire du souci. Alors je suis rentré au navire et j'ai demandé au second s'il savait où vous étiez. »«
Ah !»«
Oui, ah !»« Ce qu'il a dit sur vous n'était pas... » Il s'interrompit et tâta du bout des doigts l'échymose de plus en plus sombre qui ornait son visage. « Je ne remettrai pas les pieds sur le moissonneur, » fit-il brusquement.
Il jeta un regard noir à sa compagne de table comme si tout était de sa faute.
« Quelle mouche vous a piqué de leur donner votre vrai nom ? C'était stupide !»«
Le second vous en a parlé ? » fit-elle. Et alors qu'elle pensait avoir touché le fond, son moral tomba encore d'un cran. Si l'homme criait l'histoire sur tous les toits, elle allait voir diminuer ses chances de trouver une place de mousse à bord d'un autre navire. Le désespoir s'abattit sur elle comme une vague boueuse.
Non, seulement le capitaine, après que le second m'a escorté chez lui. Tous deux m'ont demandé alors si je savais que vous étiez une femme.
Et vous leur avez répondu par l'affirmative ? Cela allait de mal en pis. À présent, ils auraient la conviction qu'elle avait payé de son corps pour acheter le silence de Brashen.
Je n'ai guère vu l'utilité de mentir.
Althea n'avait nulle envie d'entendre la suite, de savoir qui avait frappé qui le premier, ni à quel moment. Rien de tout cela n'avait plus d'importance à ses yeux. Elle secoua la tête. Mais Brashen n'avait manifestement pas l'intention de s'en tenir là. Il avala une gorgée de bière, puis demanda d'un ton tranchant,
« Pourquoi leur avoir dévoilé votre identité ? Comment pouviez-vous espérer retrouver du travail sur un bateau avec une étiquette à votre véritable nom ?»
Tant de bêtises le laissaient visiblement pantois. « Sur la Vivacia, » répondit-elle d'une voix défaillante, « j'espérais m'en servir pour remonter sur la Vivacia, comme capitaine et propriétaire. »«
Comment ça ? »
fit-il avec méfiance. Alors, elle lui raconta toute l'histoire. Et tandis qu'elle évoquait la promesse irréfléchie de Kyle, son propre espoir de la retourner contre lui, alors que Brashen écarquillait les yeux à mesure qu'elle lui exposait son projet fou, elle s'interrogeait. Pourquoi s'ouvrait-elle ainsi à lui ? Qu'avait-il de spécial pour qu'elle s'épanche devant lui, qu'elle lui confie des secrets qui ne le regardaient nullement ? Quand elle en eut terminé, il resta un moment silencieux, puis secoua la tête et dit
« Kyle ne tiendrait jamais une promesse en l'air comme celle-là. Il vous faudrait porter l'affaire devant le Conseil des marchands, et même si votre mère et votre sœur se mettaient dans votre camp, je doute qu'on vous prenne au sérieux. Vous savez ce qu'on dit sous le coup de la colère. Si le Conseil décidait d'obliger à tenir parole tous ceux qui, dans un moment d'énervement, font des serments à tort et à travers, la moitié de Terryville se ferait assassiner. »
Il haussa les épaules. «
D'un autre côté, je ne suis pas surpris que vous tentiez votre chance. J'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre vous essayeriez de reprendre la Vivacia à Kyle. Mais pas comme ça. »«
Eh bien, comment alors ? » répliqua-t-elle d'un ton acerbe. « En m'introduisant discrètement à bord pour lui trancher la gorge ?»«
Ah, vous y avez pensé, vous aussi ? »
fit-il avec une ironie contenue.
Althea ne put s'empêcher de sourire, amusée.
Presque dès le début, avoua-t-elle. Puis son sourire s'effaça. Je dois récupérer la Vivacia, même si je sais aujourd'hui que je ne suis pas tout à fait prête à la commander. Non, ne riez pas. J'ai peut-être la tête dure, mais ça ne m'empêche pas d'apprendre. Elle m'appartient, comme aucun autre navire ne pourra jamais m'appartenir. Mais la loi et ma famille sont contre moi. Séparément, je pourrais les combattre, mais ainsi unis... »
Elle laissa sa phrase en suspens et se tut quelque temps, accablée.
« Je fais de grands efforts pour ne pas penser à elle, Brashen. »«
Moi aussi, » répondit-il.
Il voulait sans doute se montrer compatissant. Mais sa réponse hérissa la jeune fille.
« Comment pouvait-il dire cela ?
Vivacia n'était pas le navire de sa famille ? Comment aurait-il pu savoir ce qu'éprouvait Althea ? »
Le silence tomba entre eux.
Un groupe de matelots entra et s'installa à la table voisine. La jeune fille regarda Brashen, mais les mots lui firent défaut.
La porte s'ouvrit à nouveau et trois débardeurs pénétrèrent dans la taverne, réclamant avant même de s'asseoir de la bière dans un chœur de voix tonitruante. Les musiciens jetèrent des coups d'œil autour d'eux, comme s'ils venaient de se réveiller. Puis se lancèrent dans une chanson paillarde sur laquelle ils travaillaient. La salle n'allait pas tarder à redevenir bruyante et bondée comme d'habitude. Du bout du doigt,
Brachen se mit à dessiner des cercles sur la table avec la condensation laissée par sa chope.
« Alors, qu'allez-vous faire maintenant ?»
On y était. C'était la question qui l'avait tourmenté toute la journée.
« Rentrer, sans doute, »
fit-elle à mi-voix. « Comme vous me l'avez conseillé il y a déjà plusieurs mois.
« Pourquoi ?»«
Parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez eu raison. Peut-être vaut-il mieux que j'essaie d'arranger la situation pour reprendre une vie normale. »
« Rien ne vous oblige à la vivre là-bas, » murmura Brachen. « Le port est rempli de bateaux à bien d'autres destinations. »
Et il ajouta d'un ton exagérément détaché, « Nous pourrions aller vers le nord, comme je vous l'ai dit. Dans les six duchés, peu importe qu'on soit homme ou femme du moment qu'on est apte au travail. D'accord, le pays n'est pas très civilisé, mais l'existence ne doit pas y être pire qu'à bord du moissonneur. »
Elle secoua la tête sans répondre. Parler du sujet qui lui tenait le plus à cœur ne faisait que l'accabler davantage. Pourtant, elle dit enfin
« Terrilleville est le port d'attache de la Vivacia. Je pourrais au moins la voir de temps en temps. »
Elle eut un sourire qui ressemblait à un rictus.
« Et puis, Kyle est plus âgé que moi. Je vivrai sans doute plus longtemps que lui et, si je suis en bon terme avec mon neveu, il permettra peut-être à sa vieille folle de tante de naviguer quelquefois avec lui. »
Brachen la dévisagea, horrifié.
« Vous plaisantez, j'espère !» s'exclama-t-il. « Passez votre vie à attendre la mort de quelqu'un ?»«
Bien sûr que je plaisante. »
Mais c'était fou.
« J'ai eu une journée épouvantable, » fit-elle brusquement. « Il est temps qu'elle s'achève. Bonne nuit, je vais me coucher. »
« Pourquoi ?»
demanda-t-il à mi-voix.
« Parce que je suis fatigué, tiens !»
Et elle s'aperçut qu'en effet, elle était fatiguée comme jamais elle ne l'avait été de sa vie, lasse jusqu'au plus profond d'elle-même, lasse de tout.
Brachen était manifestement à bout de patience quand il dit
« Non, je ne parle pas de ça. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à mon rendez-vous ?»« Parce que je n'avais pas envie de coucher avec vous !»
répondit-elle carrément. Elle était même trop épuisée pour prendre des gants.
Brachen réussit à paraître insulté. « Je vous avais seulement invité à partager ma table. Mais c'était à votre lit que vous pensiez. »
Il faillit répondre par un mensonge, mais sa sincérité prit le dessus.
« J'y avais songé, c'est vrai. Vous n'aviez pas l'air de trouver que ça s'était si mal passé la dernière fois. »
Althea ne tenait pas à se rappeler l'épisode. Elle se sentait gênée d'y avoir pris plaisir à l'époque. Et d'autant plus que Brachen s'en était rendu compte. Et la dernière fois, je vous ai également assuré que ça ne se reproduirait plus.
Je pensais que vous vouliez dire sur le navire.
Je voulais dire partout, Brachen. Nous avions froid, nous étions fatigués, nous avions bu, et il y avait la sindine.
Elle s'interrompit à la recherche d'une façon délicate de s'exprimer, mais elle n'en trouva pas.
Il n'y avait rien d'autre entre nous.
Les doigts de Brachen se déplacèrent sur la table, et Althea comprit alors à quel point il désirait la toucher, lui prendre les mains. Elle les glissa sur ses genoux, les joignit et les serra fort.
« Vous en êtes sûr ? »
demanda-t-il, retournant le couteau dans la plaie.
« Pas vous ? »
Elle soutint son regard en s'efforçant de résister à la tendresse qu'elle y lisait. Il détourna les yeux le premier.
Enfin,
il prit une profonde inspiration, puis une longue gorgée de sa chope. Il s'appuya sur un coude, se pencha vers Althea et lui fit un sourire qui se voulait aguichant.
« Je suis prêt à payer la sindine si vous fournissez la bière. »
Elle lui rendit son sourire.
« Non, merci. »
répondit-elle à mi-voix.
Il haussa les épaules. « Et si je paie aussi la bière ?»
Son visage se fermait.
« Brachen !»
Elle secoua la tête.
« Si on y réfléchit, »
fit-elle d'un ton mesuré,
« nous nous connaissons à peine. Nous n'avons rien en commun. Nous ne sommes... »«
D'accord, » coupa-t-il sèchement. « D'accord, vous m'avez convaincu. C'était une erreur. »
Mais on a bien le droit d'essayer. »
Il vida sa chope et se leva.
« Je m'en vais. Puis-je vous donner un dernier conseil ?»«
Je vous en prie, » répondit-elle, résignée à entendre quelque tendre admonestation, l'enjoignant à faire attention à elle ou à être prudente. Mais non. Brachen déclara
« Prenez un bain, vous puez. »
Là-dessus, il s'éloigna, traversa tranquillement la salle et sortit sans un regard en arrière. S'il s'était arrêté à la porte pour lui faire un sourire et un signe de la main, l'insulte en aurait été balayée. Mais il n'avait rien fait et l'affront demeurait uniquement parce qu'Althea s'était refusée à lui. Comme s'il voulait lui faire croire qu'il n'avait pas envie d'elle parce qu'elle n'était pas pomponnée ni parfumée. Cela n'avait pas eu l'air de le gêner pourtant la dernière fois. Et si la mémoire d'Althea était bonne, lui-même ne sentait pas la rose non plus. Quelle toupet! Elle leva sa chope.
« À boire !»
cria-t-elle au patron. Courbant les épaules, Brachen s'engagea sous la pluie sale qui battait la ville et, tout en se dirigeant vers les chéneaux rouges, il s'efforça de garder l'esprit vide. Il s'arrêta une fois, le temps d'acheter un bâton de sindine brut à un camelot pitoyable sous l'averse, puis il reprit sa marche. Quand il parvint aux portes de son auberge, il les trouva barrées pour la nuit, et il se mit à les marteler du poing, pris d'une colère hors de toute proportion à l'idée qu'on l'empêche d'entrer alors qu'il pleuvait. Au-dessus de lui, une fenêtre s'ouvrit et la tête du propriétaire apparut.
« Qui est là ? »
demanda-t-il d'un ton mécontent.
« Moi, Brachen, laissez-moi entrer. »
« Vous n'avez pas rangé la salle de bain. Vous avez mal nettoyé le baquet et vous n'avez pas étendu les serviettes. »
Brachen dévisagea l'homme, sidéré.
« Laissez-moi entrer !» répéta-t-il. « Il pleut !»«
Vous n'êtes pas soigneux !»
lui cria l'aubergiste.
« Mais j'ai payé ma chambre !»
Pour toute réponse, Brachen vit son sac passer par la fenêtre et tomber dans la rue boueuse en l'éclaboussant au passage.
« Elle a !»
s'exclama-t-il, mais, inflexible, l'homme referma sa fenêtre.
Brachen tapa du poing puis du pied sur la porte et lança des insultes à l'aubergiste. Il jetait de grosses poignées de boue grasse contre la fenêtre quand des gardes municipaux firent leur apparition et lui ordonnèrent en riant de déguerpir.
Manifestement, ils avaient déjà eu à traiter ce genre de situation, et plus d'une fois. Brachen accrocha son sac couvert de boue à son épaule et s'en alla dans la nuit à la recherche d'une taverne.